Donc je vois que Corbini est effectivement sensible à la critique du sport, ça me ravit. Je ne pensais pas. Alors, comme ça fait plusieurs années que j'ai travaillé au sein du COBOP, qui est le collectif pour l'organisation du boycott des JO de Pékin sur les Jeux Olympiques de Pékin, j'y ai passé beaucoup de temps et les Jeux Olympiques de Pékin sont passés. Et en même temps, ils ont laissé beaucoup de traces et je voudrais revenir là-dessus. Je voudrais faire un bilan là-dessus qui nous permettra ensuite de rebondir sur effectivement les problèmes plus généraux sur le sport. Bien qu'il n'y a jamais de problèmes généraux sur le sport, il y a toujours des problèmes singuliers, il y a toujours des vies singulières qui sont, à mon avis, mises à mal par la pratique sportive. Alors on pourra en discuter. Voilà, donc là pendant, je ne sais pas, peut-être pendant une demi-heure, je vais vous lire tout en étant attentif et en étant réceptif à vos interventions. Si vous avez envie de m'arrêter à un moment ou à un autre, il n'y a pas de problème. Mais je vais lire ce texte tout simplement parce qu'il y a des choses précises, il y a des informations précises que je ne peux pas inventer. Et comme je veux que ce soit précis pour que ce soit aussi rigoureux, je me munis de ces papiers pour vous parler ce soir. Voilà, alors c'est un texte qui va paraître de manière un peu plus approfondie et plus longue dans un prochain numéro de la revue Quel Sport dont je m'occupe, qui est une revue donc vraiment concentrée et focalisée sur la critique du sport, sur l'analyse sociologique, philosophique du sport dans la société. Et ça s'appelle Les idiots utiles de l'olympisme totalitaire. Alors, les Jeux de Pékin ont tenu leur promesse de malheur. Pendant 15 jours, ils ont offert à 4 milliards de téléspectateurs, scotchés comme des mouches sur le petit écran du monde falsifié, le spectacle bestial, grotesque et compulsif du capital sous sa forme musculaire. Biomachines disproportionnées, abominables yétis à linguistique, veaux marins à tête d'épingle ou molosses désexués se sont combattus dans l'arène totalitaire du régime national communiste chinois, toutes griffes dehors, crocs acérés et éprouvettes d'urine exhibées piteusement. Leurs records ont alimenté l'affairisme de tous les secteurs marchands. On peut donc parler à cet égard de stabilisation et de développement du capitalisme. Leurs larmes de bonheur ou de déception ont stimulé la peste émotionnelle médiatique, une mobilisation mystique, fusionnelle et mimétique des masses. Le décompte maniaco-dépressif des médailles a réveillé les sentiments nationaux. On peut là aussi parler de chauvinisme, d'opérations de prestige étatique. Et la sécurisation des zones de fête a ouvert de nouvelles perspectives aux sciences et aux technologies de contrôle et de manipulation des individus. Et à cet égard, on peut aussi parler d'unification des appareils technoscientifiques et militaro-policiers. Bref, l'ensemble du show sportif intégré à toute la réalité a magistralement ritualisé le culte international du muscle agressif. Le devenir monde du sport est aussi le devenir sport du monde, et c'est là que c'est incroyablement désastreux. Les Jeux Olympiques ont permis à la Chine de faire définitivement partie des grandes nations, qui décideront de l'avenir de l'humanité avec la mentalité d'un équarisseur. Faut-il vivre aujourd'hui comme si tout cela n'avait été qu'une image de plus dans le cinéma exhibitionniste de nos cerveaux? Faut-il s'empresser d'en faire disparaître le sens général pour l'histoire des hommes? Eh bien, si l'on en croit l'expertise de Georges Vigarello, qui est on va dire, un historien du sport, un sociologue du sport, il estime que cette tentative de se donner des rituels mondiaux est très importante. Elle produit, selon lui, de l'imaginaire et de la séduction à bon compte. Mais de qui se moque cet argousin des facultés du sport? Que veut donc dire à bon compte pour un dissident chinois torturé, pour un séparatiste tibétain ou ouïghour tabassé à mort, pour un adepte du Falun Gong charcuté, parce que effectivement les adeptes du Falun Gong sont utilisés pour prendre les organes et faire un trafic d'organes, pour un paysan exproprié et réduit à la mendicité, pour un jeune enfant sacrifié sur l'autel des exploits sportifs. Vous savez qu'en Chine, dès l'âge de 3 ans, c'est les usines à champions, c'est pas la joie pour les enfants. Et pour une population misérable qui fabrique la matière olympique, des stades aux gadgets, dans des conditions d'esclavage inadmissibles. Le militant des droits de l'homme, Hu Jia, qui était à un moment donné, on pensait qu'il pouvait être prix Nobel de la paix. Donc ce militant des droits de l'homme a disparu pendant le rituel mondial des Jeux Olympiques, des crétins myophiles. Tandis que son bébé et sa femme étaient éloignés de Pékin pour forcer celle-ci à garder le silence. Deux vieilles dames qui voulaient manifester pendant les Jeux ont échappé de justesse au camp de rééducation. Elles y ont été condamnées jusqu'à ce que le régime chinois décide de finalement réduire la peine. Une activiste du SIDA a été discrètement condamnée à 1 an de prison pendant que le sus-cerveau sportif détournait l'attention. Et comme il est de coutume dans les pays totalitaires, les malades psychiatriques ont été forcés à l'enfermement, à Shanghai, juste à côté des épreuves olympiques, pendant toute la durée des Jeux. La censure dans la presse et sur Internet n'avait jamais été poussée aussi loin, et elle a étouffé dans l'œuf toute critique, tout propos indépendant et tout dérapage. En règle générale, tous les espaces de protestation qui étaient soi-disant ouverts par le Parti communiste chinois pour rassurer de naïfs occidentaux étaient des pièges à manifestants. Ils ont permis à la police de repérer, d'arrêter, de contrôler et d'éloigner tous les contestataires. Avoir l'esprit olympique ou périr, tel était le message de la grand-messe qui produit de l'imaginaire et de la séduction à bon compte, selon Vigarello. Le tour de vis olympique dans un pays en état de guerre ne pouvait séduire que l'interlope sadomasochiste. Alors comme toute idéologie totalitaire, l'olympisme possède ses idiots utiles, comme disait Lénine, qui de bonne ou mauvaise foi promeuvent aveuglément la politique du pire et préparent sans le savoir la corde avec laquelle ils se pendront. Athlètes, journalistes, politiques, intellectuels ou pseudo-critiques se sont en l'occurrence parfaitement illustrés dans ce rôle pendant les 15 jours de fête de la jeunesse dopée et de fraternité entre les peuples qui sont en guerre. Alors je commencerai par les athlètes. Avant les Jeux, nombreux furent les petits malins qui voulaient le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la crémière. En gros, ils espéraient que les bœufs du stade, en meuglant, servent de porte-voix aux grandes causes humanistes du monde. Ainsi pouvaient-ils soutenir l'organisation des JO par un régime liberticide, tout en se vantant de parvenir à libérer par ce choix les populations asservies. Le tout, évidemment, devant la télévision, captif des cuisseaux de mammouth et des épaules d'aurochs, des athlètes toujours sains de corps et d'esprit. Alors beaucoup se plongeaient ainsi dans les rêves à l'eau de rose d'un Michael Phelps dénonçant la situation pré-génocidaire au Darfour, d'une Manodou criant contre la répression féroce de la révolution safran des moines birmans, d'un Estanguet blâmant le système des camps de concentration en Chine ou la peine de mort massive, d'un Usain Bolt au point levé pour dédier sa victoire aux victimes tibétaines. Ah, tout le monde en a rêvé. Le geste symbolique d'un athlète contestataire était censé avoir plus de poids politique que le boycott total de ces Jeux. L'ouverture de la Chine à la démocratie reposait donc sur les épaules d'un champion au cœur tendre, d'un héros du tartan engagé, d'un monstre aquatique politisé. Mais fonder ses espoirs sur des cybernanthropes égoïstes et paramétrés pour vaincre à tout prix est malheureusement aussi peu réaliste que de bâtir sur des sables mouvants. Comme c'était largement prévisible, sans être un grand prophète, tous les athlètes se sont honteusement tus. Les quelques fanfarons qui ne voulaient pas être les otages de la politique ni la caution d'un régime autoritaire ont docilement rendu aux journalistes leur bilan de santé quotidien, sans un traître mot pour témoigner de la négativité interne des Jeux Olympiques. Ces gros narcisses vaniteux, partisans d'un soi-disant monde meilleur, se sont vite recentrés sur leur nombril, subjugués qu'ils étaient par la magie olympique, l'organisation parfaite, la gentillesse des Chinois et puis la beauté vertigineuse des lieux dédiés à leur propre culte. « Nous ne voulons pas que les Jeux soient la plateforme exutoire de tous les conflits », avait prévenu Jacques Rogge, le président du CIO, Comité international olympique. Il fut parfaitement entendu, les blogs des athlètes étaient censurés sans soulever de protestation, les comités olympiques nationaux avaient interdit à leurs poulains de s'exprimer autrement que par grognement, et finalement l'ambiance, la tension, la dramaturgie des stades ont fini de les convaincre que la médaille sous les drapeaux rouges de sang pouvait aussi avoir bon goût. Henri Serrandour, le président du Comité national olympique français, redoutait ce qu'il dit être un coup sournois, la faiblesse d'un élément de la délégation qui penserait faire un bon coup et aurait été manipulé par des gens extérieurs. Mais loin des podiums, le minuscule club français des porteurs de badges s'est noyé dans la tristesse des petites blessures, des diarrhées pendant la course, des préparations mentales perturbées. Motus et bouche cousue, personne n'a parlé. Le silence politique des bêtes de perf n'a laissé jaillir des stades que la discipline nationaliste à la gloire du Parti communiste chinois. Le mythe de l'athlète citoyen s'effondrait, pour de bon, laissant place à d'autres préoccupations. La dure réalité du dopage, d'une belle jeunesse, sportive, complètement accro. L'opium sportif se révélait dans toute sa splendeur mortifère, avec une galerie pitoyable d'anabolisés, de shootés de l'EPO, de fixés aux vasodilatateurs, de junkies de l'insuline, de toxicos des bêta-bloquants, tous incapables de s'extraire de leur paradis artificiel en plein cœur de l'enfer terrestre. 6 athlètes et 6 chevaux contrôlés positifs pendant les Jeux. Il y en a eu 26 à Athènes. Une bonne trentaine juste avant, quelques autres durant les Paralympiques, des suspicions lourdes sur un bon nombre de médaillés et sur la fiabilité évidemment des contrôles chinois en retard de plusieurs générations. Comment croire que dans cet univers frelaté d'addiction à la gagne et d'injection à haute dose de la victoire dans le sang, je précise qu'il y a eu quand même 32 records battus pendant ces Jeux, avec seulement 4 dopages, comment croire donc que puisse s'organiser une protestation dite citoyenne contre l'état de fait marchand et guerrier ? Le sportif, il faut le dire, est aujourd'hui trimballé de stade en stade comme un pitbull ou un coq de combat. Dressé, muselé, picousé, et bientôt, si ça ne l'est déjà pas, génétiquement modifié. Il n'a plus son mot à dire, parce que de toute façon, il ne possède pas de langage, ou en tout cas, il n'en possède pas d'autre que celui réifié et totalitaire de la compétition mondialisée de tous contre tous. Ensuite, il y a eu les journalistes. Alors, avec les journalistes, on était en pleine fumerie d'opium. L'un des arguments contre le boycott des Jeux de Pékin était que les journalistes allaient pouvoir y témoigner des conditions de vie des Chinois, des atrocités subies par différents groupes de population, des fonctionnements du système bureaucratique d'État totalitaire. Bref, on devait nous dire comment ça se passait là-bas. Le fantasme du grand reporter qui fait la lumière sur des zones tenues secrètes ou laissées dans l'ombre du pouvoir dictatorial n'a cessé d'alimenter les discours soi-disant réalistes de ceux qui voyaient dans les JO une chance à saisir pour ouvrir la Chine au reste du monde. Bilan des courses. La plus grande majorité de la presse écrite et orale et télévisée ne fut qu'une grande chambre d'enregistrement de la propagande sportive du régime chinois. La Chine, championne olympique, titrait quasiment tous les éditorialistes. Introjectant docilement le point de vue du régime chinois, ils affirmaient, grosso modo, qu'après une phase de préparation délicate, la Chine a remporté haut la main la bataille des Jeux olympiques de Pékin. Pékin aurait confirmé sa capacité à mobiliser les moyens matériels et humains nécessaires pour une entreprise aussi gigantesque. Tout n'était donc à Pékin que luxe, calme et grande volonté d'entreprise. Bruno Philippe, reporter au journal Le Monde, n'hésite quand même pas à cracher dans cette soupe de servitude. Il dit « Prenez de nombreux journalistes chevronnés, sportifs, qui n'étaient jamais venus en Chine. Ils disent n'avoir jamais vu épreuve aussi bien organisée, stade aussi magnifique, personnel aussi attentionné. Quand on leur parle de l'envers du décor, celui de la pauvreté, des violations des droits de l'homme, de la condition des paysans, du mécontentement de pans entiers de la société, ils ouvrent de grands yeux et font la comparaison avec l'image fantasmée d'une ville de bicyclettes depuis longtemps disparue. Il y eut plusieurs JO, ceux de la bulle du village, décrits notamment par les envoyés spéciaux du Monde et puis par tant d'autres, sur France 2, sur France 3, etc. Et puis il y a eu ceux du reste de Pékin, vidé d'une partie de ses habitants, comme les travailleurs migrants en chômage technique, les chantiers ayant été suspendus, chassés aussi les mendiants et autres personnes susceptibles de faire tache dans le paysage. L'ambiance ne fut pas des plus folichonnes, à vrai dire. Et effectivement, les plus téméraires de cette cohorte de saints hurleurs médiatiques, mimant les volontés du maître Hu Jintao, se focalisèrent ainsi sur l'ambiance. Elle était trop froide, trop réglée, trop préparée. Ils s'attendaient à quoi ? À la technoparade ? Pour beaucoup qui confondent l'olympisme et le carnaval de Rio, les Jeux olympiques devraient être une fête qui laisse place à l'improvisation, à la spontanéité, à l'imagination. Pour eux, ces doux rêveurs, des JO réussis, ce ne sont pas des Jeux réglés comme des défilés de masse populaire dans un régime communiste. Ben non, c'est une occasion de rencontre inattendue, de célébration débridée. Sauf que Dionysos n'est pas un mythe célébré par le Parti communiste chinois, et pas plus que l'orgie des dieux. Le comité d'organisation olympique chinois n'est pas un gentil organisateur de clubs méditerranéens, mais il gère des intérêts politiques, économiques et géostratégiques énormes qui étaient en jeu durant ces 15 jours de simili-fête de la jeunesse. Alors d'autres journalistes se mirent aussi très sérieusement à faire l'inventaire des inauthenticités du spectacle. Un comble, l'illusion spectaculaire devait être vraie. Alors la fausse chanteuse, les faux feux d'artifice, les faux spectateurs, les fausses gymnastes chinoises... Le scandale semblait vouloir éclater. La Chine, experte en falsification de marques, falsifiait les JO.
Je
ne
voudrais pas vous couper.
Ben allez-y.
Un débat contre la Chine ou
contre le sport.
Contre le sport.
Parce que là, vous êtes complètement contre la Chine et pas du tout contre le sport.
Contre le sport.
Alors,
là, je vais vous dire que vous êtes carrément contre la Chine.
Je veux bien écouter.
Attends.
Je veux bien.
Elle n'est pas abrutie, on sait regarder la télé comme vous.
C'est très bien. Je vous ai pas traité d'abruti.
Non.
Peut-être ça viendra, mais pas tout de suite. Eh ben oui. Si vous pouvez me laisser répondre.
Non,
je vous ai laissé il y a deux ou trois pages que j'ai voulu, deux ou trois pages lues.
Ah
que j'ai voulu vous arrêter et j'ai dit non, on va laisser que vous.
Est-ce que c'est une apologie de la Chine ou une apologie du sport?
Non, alors
nous on était venus pour une apologie du sport.
Non, une apologie.
Pas de la Chine.
Non. Il se trouve que monsieur, que la Chine a organisé les Jeux Olympiques, qui sont effectivement le symbole du sport mondial, international. Donc si non. Et veuillez m'écouter, s'il vous plaît. Voilà. Il se trouve. Ah ben, attendez, si vous voulez pas m'écouter, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Il n'y a aucun problème. Attendez, monsieur. Vous voulez bien.
Coupez au micro. Coupez au micro. Dites directement ce que vous avez dit.
Écoutez. Ben, je vais vous dire très net les choses. Je suis pas venu là pour me faire agresser par trois minables, d'accord? C'est clair? Si vous voulez pas m'écouter, vous partez. Si vous voulez pas m'écouter, vous partez. D'accord? Oui, me couper, mais pour m'écouter, d'accord? Je réponds à votre question. Si vous voulez pas que je réponde à votre question, vous pouvez partir, d'accord? Alors, je vous explique. D'accord? Il se trouve que deux phénomènes sont effectivement liés. La politique chinoise et les Jeux Olympiques. Alors effectivement, je ne peux pas faire autrement que de parler de la Chine, qui est un régime totalitaire, qui a organisé le plus grand événement sportif du monde. Je ne peux pas faire autrement que de parler de la Chine pour pouvoir rendre compte de ce qui est effectivement la nature du sport. Si le sport s'organise dans un pays totalitaire, ce n'est pas par hasard. D'accord ? Donc effectivement, je ne peux pas délier ces deux phénomènes comme s'ils étaient indépendants. Le sport s'est passé pendant 15 jours dans un pays totalitaire sans que personne ne dise rien, ni les sportifs, ni l'organisation sportive. Donc, effectivement, il y a un lien entre les deux. C'est ce que je tente de dire. Si vous ne voulez pas m'entendre, vous pouvez partir. D'accord ? Vous pouvez partir. J'ai beaucoup de choses à dire. Non, mais tu peux partir, d'accord ? Tu peux partir. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Tu peux partir. Si je te casse les couilles, tu te casses. D'accord ? Je ne suis pas venu là pour me faire agresser par vous, d'accord ? C'est clair et net. Alors je fais vous m'agressez, vous m'agressez dans. Non, c'est pas la question. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Je sais. J'ai l'habitude. Écoute-moi bien, Pomalo. Si tu veux pas écouter la lecture, tu te casses, d'accord ? Tu te casses, d'accord ? Non, mais franchement, moi, je me suis fait chier à préparer un texte pour vous, d'accord ? Alors, effectivement, je passe une demi-heure pour parler, d'accord ? Après, le débat est ouvert, ok ? C'est clair ? Les règles du jeu sont fixées. Non, attends, les règles du jeu sont fixées maintenant. Ah, c'est ça le problème. C'est qu'il se croit sur un stade de foot. Vous voyez, en fait, on touche du doigt quelque chose de très spécifique. Je vais vous dire, parce qu'on peut analyser une situation concrète. On touche du doigt quelque chose de très spécifique. Qu'est-ce que c'est que la violence sportive ? C'est exactement ça. C'est l'anti-intellectualisme primitif. L'anti-intellectualisme primaire. C'est-à-dire que dès qu'on parle de sport, il faudrait être bref, court, et avoir trois phrases et trois mots de vocabulaire. Quand on a un tout petit peu plus et qu'on prend un quart d'heure pour parler, on se trouve avec quoi ? Des bestiaux qui nous disent « arrêtez de parler ». Voilà.
À nous, les bestiaux !
Oui, à vous, les bestiaux.
Ah, bah, hey, oh ! Là, faut quand même réviser tes mots, hein !
Donc, je continue.
Oh ! Hey, oh ! On n'est pas des bestiaux, hein ! Oh !
Est-ce que tu pourrais nous dire ton niveau de sport ?
Mais on n'est pas des bestiaux, mais
c'est quoi ton niveau de sport ?
Écoutez, ils sont complètement bourrés, sortez-les. Moi, je continue pas tant qu'à ça.
T'as fait quoi comme sport ?
Je continue pas.
On est des bestiaux ? Mais vous avez vu comment ils comptent ? On est des bestiaux ?
Alors, je reprends. Pour répondre à la question quand même de ce monsieur. Attends. Pour répondre à la question de ce monsieur sur la question de mon sport, j'ai fait 20 ans de judo, je suis ceinture noire 3e dan. Et c'est pas des blagues. Voilà. C'est pour ça que la violence ne m'impressionne pas. Alors je reprends. D'autres journalistes donc se mirent aussi très sérieusement à faire l'inventaire des inauthenticités du spectacle. C'était un comble. L'illusion spectaculaire devait être vraie. Il y avait la fausse chanteuse, les faux feux d'artifice, les faux spectateurs, les fausses gymnastes. Le scandale semblait vouloir éclater. La Chine, experte en falsification de marques, falsifiait donc les Jeux Olympiques. Pour Stéphane Mandard, journaliste au Monde, le spectacle a été époustouflant, mais il se demande, en prenant l'air profond, les Jeux de Pékin n'étaient peut-être qu'un mirage. Et les matraques de la guimauve, les policiers du pain d'épices, et les Laogai, les camps de concentration, un grand Disneyland sans doute. Et pourquoi pas annoncer, comme Jean Baudrillard, que les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu ? C'était bien tout le sens de l'article pseudo-critique de Alain Léautier et Luc Richard, publié dans le journal Marianne, qui commençait par « Détournement de JO ». Grâce au talent assez remarquable en la matière du Parti communiste chinois, le concept appartient désormais au grand dictionnaire des arnaques contemporaines. Ainsi donc, la vieille rengaine des jeux détournés par un régime totalitaire reprenait du service. Là où tout le monde voulait du sport, du vrai, il y avait donc de la politique, du spectacle de marchandises vivantes, de la manipulation des masses, de la réification et de la fausse conscience. On nous aurait menti, à l'insu de notre plein gré, reprirent en chœur les viringues de Marianne. Triste découverte, après quasiment un siècle de sport-spectacle drainant dans son sillage un long impressionnant de magouilles, de mensonges, de tricheries, en tout genre, eh bien oui, dans le monde sportif, le vrai n'est qu'un moment du faux, devenu total. Les Jeux furent présentés comme un grand succès. Tel était le souhait des fonctionnaires de Pékin qui estimaient que la fête olympique avait montré la vraie face de la Chine, l'harmonie sociale des Chinois. Tel était aussi le souhait de Jacques Rogge, pour qui les Jeux avaient été exceptionnels. Ainsi, de nombreux éditorialistes ou envoyés spéciaux y sont allés de leurs plumes lyriques pour enchanter les chaumières. Ombre et lumière, splendeur et décadence, médaille et revers des médailles, la rhétorique neutraliste des bons et mauvais côtés d'une même chose a submergé l'information dite critique, voire même de gauche. Le message était clair, bon, tout ne va pas si bien en Chine, mais grâce aux JO, elle progresse. Paul Deschamps, du journal La Grande Époque, fut le seul à douter du succès de la Chine. Il se dit quand même, le succès de qui ? Les avancées économiques, dit-il, et l'augmentation du niveau de vie en Chine ne changent pas grand-chose à la nature du régime, à ses manières de fonctionner et de garantir son contrôle sur la population. Les Jeux ont été et seront un opium certain en Chine, pour un moment, mais il est difficile de dire pour combien de temps les autorités pourront planer sur ce nuage. Les succès olympiques sont une goutte d'eau dans l'histoire, les crimes perpétrés par des gouvernements et des hommes fous du pouvoir laissent des traces indélébiles. Un succès sportif peut-être, mais une défaite pour l'humanité. En ce qui concerne les politiques maintenant, alors lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin, il y avait plus de chefs d'État qu'à une séance plénière de l'ONU. En tout, plus de 80 se sont déplacés pour applaudir en rang serré le spectacle d'autocélébration de la plus grande dictature du monde. C'était du jamais vu. Le Monde titrait « Les JO transportent la Chine dans le nirvana diplomatique ». Et pour la première fois, un président français, le doigt sur la couture du pantalon, faisait son entrée remarquée dans l'arène olympique sous prétexte de ne pas vouloir, je cite, « boycotter un quart de l'humanité ». S'il y eut bien quelque chose de nouveau durant ces Jeux, dont la dramaturgie répétitive ne peut faire vibrer que les névrosés sociaux en pleine surenchère masochiste, ce fut donc la soumission politique totale des États du monde à l'égard du veau d'or olympique. La symbiose idéologique parfaite des chefs de gouvernement et des gardiens du temple olympique. Et enfin, l'alliance objective des démocraties occidentales avec la plus grande dictature sanguinaire de la planète, le régime de Pékin. Voilà ce qu'a permis les Jeux Olympiques. Voilà effectivement le lien entre le sport et la Chine. Pour tous ces États sans projet de civilisation, la Chine olympique devenait le modèle d'un projet de mondialisation sportive et totalitaire. Dans un appel explicite à la collaboration franco-chinoise, Jean-Pierre Raffarin donnait le programme des années à venir. Je le cite. L'arrogance occidentale n'est pas la meilleure expression pour convaincre les Chinois que la diversité culturelle ne peut survivre que si on accepte un minimum d'unité autour de valeurs communes. N'oublions pas, dit-il cependant, que les Occidentaux ne sont pas toujours les mieux placés pour donner des leçons à des cultures qui considèrent que la morale occidentale est d'abord au service des intérêts occidentaux. La paix du monde ne sera pas assurée sans la Chine. Nos destins sont liés. Les partenaires de ce pays doivent maintenant l'aider, avec amitié et franchise, à assumer sa nouvelle position, ses responsabilités, en première ligne des nations. En clair, que nous dit Raffarin ? Eh bien, Raffarin voit dans le modèle politique et économico-social chinois, qui est radicalement antidémocratique et anti-humaniste, l'exemple à suivre pour un Occident culpabilisé à mort. Que restera-t-il de l'Occident ? Que restera-t-il de l'Occident quand il n'aura même plus l'arrogance de condamner la peine de mort, les camps de concentration et de rééducation par le travail, les massacres de manifestants, le musellement de la presse, la sécurisation militaro-policière de tous les espaces publics et privés ? Eh bien, moi, je vais vous le dire, ce qui va rester, il va rester une grande fourmilière gouvernée par des termites. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, s'est empressé de manger dans la main de Hu Jintao en déclarant qu'une amitié indéfectible et inébranlable unissait le peuple français au peuple chinois. Il lançait une formule ridicule dont il garde le secret. Il dit « Si l'organisation des JO était un sport, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi pour qu'on attribue à la Chine la médaille d'or. » Dans le camp socialiste, Jean-Paul Huchon, parti sans vergogne à Pékin soutenir les athlètes de la région Île-de-France, affirmait que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il dit « C'est très organisé, avec une certaine obsession pour la sécurité. Pour le reste, il y a beaucoup de bénévoles qui font le maximum pour que les gens soient bien accueillis. » Il se disait même impressionné par la main-d'œuvre dont disposent les organisations pour tailler le moindre bout d'herbe. Je le cite. Les agents des espaces publics, des espaces verts de Paris, n'ont qu'à bien se tenir. Bientôt, Jean-Paul Huchon leur demandera de tailler bénévolement les pelouses au ciseau. Hans-Gerd Pottering, le président du Parlement européen, qui fut l'une des rares personnalités politiques d'importance à boycotter la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin, s'est retrouvé bien isolé quand il appela les athlètes à lancer un signal sur les droits de l'homme. Il disait « Je voudrais encourager les athlètes, femmes et hommes, à regarder la situation bien en face et pas à côté. Chacun peut, à sa manière, lancer un signal. Aucun fonctionnaire ne devrait empêcher cela. » En réponse, Nicolas Sarkozy coachait l'équipe de France comme un chef parachutiste. Il disait « Allez-y à fond, c'est un spécialiste qui vous le dit. Libérez-vous, donnez tout, vous avez un pays derrière vous. » Je le cite. Son fidèle roquet, Bernard Laporte, avait également préparé le terrain des gros colosses à courte vue. Il dit « Si on décide de faire les Jeux, il faut en accepter les règles. Si on ne les accepte pas, il ne faut pas venir. Bien sûr que l'on peut tout politiser, partout dans le monde, quel que soit le régime politique, mais je crois que lorsque les compétitions vont démarrer, tout cela sera fini et le sport l'emportera. » Alors, en effet, le sport a tout emporté comme un grand souffle sur les mémoires, comme une immense vague sur les consciences, comme un lavage de cerveau à échelle planétaire. C'est le sport qui gagne, se félicitait Sarkozy à la fin des Jeux. Et pour la gauche contestataire, la défaite est totale. Venons-en aux intellectuels, ou à quelques-uns d'entre eux. Durant chaque spectacle olympique, de nombreux spécialistes, autoproclamés du sport, sortent comme champignons au soleil. Sans aucun travail sérieux sur la question, ils donnent d'autant plus aisément leur avis que celui-ci redouble le langage dominant de l'institution dominante, en l'occurrence le Comité international olympique. Ainsi, Patrick Clastres, qui achève une thèse de seconde main consacrée à Coubertin, estimait-il dans un numéro spécialement nul de l'Histoire que le choix de Pékin comme ville olympique était un pari osé, un choix symbolique. Selon lui, les membres du CIO, je le cite, ont surestimé la capacité de l'olympisme à effacer les conflits et enjeux politiques. Il semble en tout cas qu'il y ait eu une erreur lourde. Il reste donc beaucoup de chemin à parcourir pour que le CIO se transforme en instance démocratique et fasse la promotion des droits de l'homme. Il faudrait pour cela, écoutez bien sa réponse, écoutez bien sa méthode, il faudrait pour cela que le CIO change son mode de recrutement. Alors donc, la face cachée du CIO, pour Patrick Clastres, serait donc de pécher par excès d'idéalisme et de ne pas bien recruter son personnel. La plus grande multinationale mafieuse de tous les temps, celle dont l'influence sur la vie quotidienne des individus est prégnante par le biais de ses réseaux d'intérêts tentaculaires, n'est pour Clastres qu'une sorte de club de gentils retraités qui rêvent d'un avenir meilleur et qui ont quand même la vieille manie de la cooptation. Il suffirait d'une ou deux petites réformes conseillées par l'expert Clastres pour faire de cette pieuvre une jolie sèche inoffensive. Beaucoup plus réaliste, Pierre Milza, un grand historien, expert, nous invite à faire l'autruche ou l'animal de compagnie qui suit Bobonne. Il conclut son article, qui était un article assez juste qui s'appelle « De Berlin à Moscou, du sang et des jeux », par cet appel vibrant à la docilité olympique. « Quoi qu'il en soit, dit-il, dans un contexte de mondialisation croissante des enjeux de toute nature concernant les rapports entre les sociétés humaines, le mouvement olympique est devenu aujourd'hui un acteur transnational avec lequel les puissances, grandes ou petites, doivent compter. » Qu'on le veuille ou non, dit-il, qu'on le veuille ou non, qu'on se lamente de la perversion d'un idéal qui n'a sans doute jamais été en prise avec son siècle, ou que l'on salue, comme un fait hautement positif, l'évolution accomplie dans le sens de l'élargissement planétaire du fait olympique, celui-ci, dit-il, fait désormais partie du jeu politique qu'il faut faire avec. Si le rôle de l'historien si le rôle de l'historien est de faire avec le temps, et avec le temps présent des massacreurs, de s'adapter à l'état de fait tel qu'il s'impose avec violence, eh bien, il n'est plus, cet historien, qu'un scripteur de la novlangue de la domination. Walter Benjamin disait « L'identification au vainqueur bénéficie donc toujours au maître du moment. » Pour l'historien, c'est assez dire. Tous ceux qui, à ce jour, ont obtenu la victoire participent à ce cortège triomphal où les maîtres d'aujourd'hui marchent sur les corps de ceux qui aujourd'hui gisent à terre. Pascal Boniface, que vous connaissez sans doute, qui sévit sur beaucoup d'ondes, qu'on entend assez souvent, notamment dans C'est dans l'air. Pascal Boniface fut également l'ami officiel du régime de Pékin, la voix de son maître. Sur toutes les émissions de radio et de télé, ressassant son éternel slogan, les jeux, leur attribution et leur bon déroulement ont été une étape essentielle vers la démocratisation. Le bilan qu'il tire de cette foire aux muscles à l'engrais chimique ne sort pas des lignes tracées par des fonctionnaires de la propagande chinoise. Il dit « Il ne faut pas faire la leçon au gouvernement chinois. Les JO ou la Coupe du monde de football sont des événements importants, mais ce ne sont pas des baguettes magiques. Ce serait erroné de penser qu'ils n'ont aucun rôle, mais croire qu'ils peuvent tout régler, qu'après rien ne sera comme avant, est tout aussi illusoire. On peut se demander si la situation des droits de l'homme aurait évolué si l'on avait boycotté les JO. Je réponds que non. On ne peut pas parler non plus au nom des Chinois et des Tibétains. Le pouvoir chinois a certes été conforté par ces Jeux, réussis, mais ces derniers auront un impact à l'avenir sur l'ouverture du pays au monde extérieur. » Madame Irma a donc parlé. Mais comme toutes les voyantes de supermarché, Boniface annonce ce que le client veut bien entendre. Parce que l'ouverture de la Chine aux affaires capitalistes du monde extérieur n'est évidemment pas un scoop. Tout le monde le sait. Et que les jeux puissent servir à dynamiser les profits des entreprises capitalistes transnationales, personne n'a pu en douter une seule seconde. Que ce soit Coca-Cola, McDonald's, etc. Le scandale du lait frelaté l'a parfaitement démontré. Lui qui a été sciemment étouffé dès le mois de mai 2007, date des premiers décès des bébés. Étouffé par les autorités chinoises pour ne pas ternir l'image des Jeux Olympiques. Bilan de ces pratiques très démocrates, d'intimidation de la presse et des familles qui voulaient porter plainte, plus de 50 000 enfants malades en Chine et de gros risques de contamination dans tous les pays acheteurs de cette poudre de lait toxique. Boniface le savait-il? Lui qui connaît si bien la Chine qui s'ouvre? Manifestement non. Le respect des droits de l'homme exigeait de la part de la communauté internationale une fermeté politique qui puisse protéger les dissidents, qui puisse leur permettre de s'exprimer et de constituer des poches de résistance contre le pouvoir en place. Le boycott était une étape dans cette stratégie qui aurait pu mobiliser les États prétendus démocratiques dans la lutte pour la libération de la parole et des actes contestataires et pour l'affaiblissement diplomatique, économique et idéologique du régime de Pékin. A contrario, applaudir les jeux exceptionnels d'une tyrannie revenait à cautionner la lente liquidation d'Ujiya et de tout ce qu'il représente pour l'avenir de son pays. Le nid d'oiseau dans lequel se déroula la plus grande partie de cet effacement de l'histoire et de ce révisionnisme massif à la gloire du régime en place, était pourtant qualifié par Jacques Herzog, l'un des architectes concepteurs du stade, d'espace démocratique. Parfaitement conscient d'avoir collaboré avec une dictature, il le dit lui-même, il estime qu'il valait mieux participer que boycotter. Selon lui, ce stade a été créé pour une chose évidente, et là il parle de la propagande nationaliste du régime, il le sait, il l'a fabriqué pour ça. Mais ce qui l'intéresse le plus, dit-il, c'est l'autre chose. Après les Jeux, quand les gens en feront un élément de leur vie. Or, est-ce qu'effectivement ce stade deviendra un élément de la vie des Chinois, de la même manière que le Stade de France en France? Fait-il partie des franciliens, de ceux qui habitent à Saint-Denis? Évidemment non. Sylvain Lefebvre et Romain Roux, de l'Université du Québec à Montréal, n'ont pas les mêmes yeux de la foi. Ils disent quelque chose d'important. Le parc olympique risque de devenir un désert de béton. Ces infrastructures seront difficilement fréquentables par des populations localisées, plus au sud ou à l'est de la métropole, en raison notamment de temps de transport considérables. À cela s'ajoute la spéculation foncière, où nombre de districts ouvriers traditionnels ont été rasés, de manière à laisser place à plus de 300 millions de mètres carrés d'espaces de bureaux et de commerces, représentant la superficie de 3 Manhattan. Ainsi, la devise olympique des Jeux, un monde, un rêve, risque de tourner au cauchemar pour plusieurs centaines de milliers de citadins, et ce pour plusieurs années. Donc en fait, l'implantation du sport et des stades sportifs crée effectivement un univers de désert autour de ces stades, un univers de béton, dans lequel effectivement, notamment pour le cas de construction aussi gigantesque que celle d'un Stade de France ou du Nid d'Oiseau, ne pourront venir et participer que des privilégiés, et certainement pas, évidemment, le peuple commun qui ne pourra évidemment pas venir jouer, faire ses cours d'éducation physique au Nid d'Oiseau. Enfin, voilà qui n'empêche pas Jacques Biroust, psychologue de l'Université de Montpellier 1, de délirer sur ce qu'il appelle les cyclotrons, les accélérateurs circulaires de particules anthropométriques, que seraient les grands stades. Dans l'énorme chaudron, nous raconte cet illuminé postmoderne épigone de Michel Maffesoli, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, ne le connaissez pas trop, jaillit, écoutez bien, en art brut, le différentiel énergétique, anonyme, qui est à tous et n'est donc à personne. Il n'y a rien d'autre à voir de précis ni à montrer que l'être ensemble grandiose. Un grand stade, c'est l'apothéose du voir être vu, dont les acteurs sont reliés par une même passion, laquelle est une force. Bien pour moi, des masses mimétiques en fusion, capables de se ruer sur l'ennemi comme tout à l'heure et de le mettre à mort en une fraction de seconde, Des masses mimétiques en fusion, capables de se ruer sur l'ennemi et de le mettre à mort en une fraction de seconde, représentent en effet une force, la force fascistoïde de l'être ensemble communautaire, la force émeutière de la meute. Voilà ce qu'est le sport, c'est la meute sportive. Parfois, la meute est dressée, matée par les systèmes de sécurité, tant mieux. Volontairement, des foules entières viennent se faire reconnaître par le pouvoir en suivant docilement les modèles d'inconduite. Et d'autres fois, quand la sécurité se relâche, quand les tensions et les effets de pression au sein du stade sont trop puissants, eh bien le cyclotron de M. Jacques Biroust devient le lieu monstrueux d'un crime prémédité et organisé. Et les exemples de ces boucheries et lynchages ne manquent malheureusement pas. Mais Biroust et bien d'autres sont amnésiques et ils ont abusé de leur accélérateur de particules. Pour terminer, ou presque, je voudrais en venir aux pseudo-critiques. D'une manière générale, les pseudo-critiques décidèrent de ne pas hurler avec les loups l'hymne de la grandeur de l'olympisme totalitaire chinois. Ils étaient au-dessus de la mêlée. Pour autant, ils luttèrent aussi contre le boycott des Jeux de Pékin de manière plus ou moins perverse. Le cas le plus significatif de captation des thèses de la critique du sport pour les ajuster à la sauce caviar social-démocrate et de scotomisation de la praxis processus du boycott des Jeux de Pékin fut illustré par Charlie Hebdo. Philippe Val, Gérard Biard, Agathe André et Philippe Lançon, tous quatre parfaitement au courant de l'existence du Cobop et de quel sport, écrivirent tour à tour quelques textes de circonstances plutôt minou-minou sur certains aspects de l'organisation et de l'idéologie olympique qui étaient mis concrètement en lumière par la lutte effective des militants pour les droits de l'homme en Asie et des partisans du boycott des JO de Pékin. Ces usurpateurs du « moi je pense que », qui tenaient à faire savoir combien leur morale les plaçait à distance de l'événement olympique mercantile et propagandiste, ne parlèrent absolument jamais des luttes réelles du COBOP et des autres associations opposées à la tenue des Jeux. Ils voulaient laisser croire que la critique des collusions affairistes du CIO et du Parti communiste chinois ne pouvait se limiter qu'à de petites leçons de vertu de grands seigneurs endimanchés, jetant leur papier ronchon à la face du vulgaire comme on pétrait sur une toile cirée. Je passe, on en discutera après. Je voudrais quand même conclure. Rappelons avec Marx qu'à toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes. Autrement dit, la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est en même temps la puissance spirituelle dominante. Les individus qui composent la classe dominante ont aussi, entre autres choses, une conscience et c'est pourquoi ils pensent. Il va de soi que, dans la mesure où ils dominent en tant que classe et déterminent une époque dans tout son champ, ils le font en tous les domaines. Donc, ils dominent aussi, entre autres choses, comme penseurs, comme producteurs de pensées. Bref, qu'ils règlent la production et la distribution des idées de leur temps, si bien que leurs idées sont les idées dominantes de l'époque. Eh bien, il devient de plus en plus clair que la classe sportive, qui traverse toutes les classes traditionnelles, des prolétaires aux bourgeois, aux aristocrates, tous, est la puissance matérielle dominante aujourd'hui. Elle a transformé la pensée en instrument de mesure des idiots utiles, lancés dans la course au gros borborygme olympiste. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je tiens quand même à dire que si j'ai écrit ce texte, encore une fois, ce n'est pas par mépris pour vous, c'est au contraire parce que je respecte mon auditoire et parce que je pense que, effectivement, au lieu de faire de rabâcher des choses et de faire comme si je connaissais tout, de faire le gars qui peut se passer de papier pour parler, eh bien, j'ai quelque chose de précis à vous dire, qui est la base ensuite d'un débat qui peut s'orienter sur des choses précises et pas sur n'importe quoi, parce que si ça s'oriente sur n'importe quoi, ma présence ici n'a aucun sens. Si ça doit effectivement se transformer en discours de café du commerce, je n'ai aucunement pas ma place ici. Je ne me fais pas sué depuis 10 ans à écrire des bouquins, à théoriser la critique du sport pour venir ici et tenir un discours de café du commerce. Sinon, effectivement, vous pouvez me remplacer par n'importe qui d'autre. Voilà. Les choses sont claires. Les choses sont claires.
Attendez, on va.
Très politique et contre. Vous avez tenu quand même un discours. Tout le long de votre discours, on vous a interrompu au milieu du discours, et vous avez tenu un discours uniquement apolitique et contre la politique de la Chine, de ceci sur le sport. Moi, je venais pour le sport, pour mes enfants à l'école et tout. Je venais pas écouter un truc qu'on a vu à la télé et revu. On le sait pertinemment. Que la Chine c'était pas terrible, mais on n'est pas venu pour entendre encore ça. On le sait, ça. Les médias l'ont dit. Hein. Quoi ? Question ? Encore ?
Oui, moi je voulais dire que ça m'a fait grand bien d'entendre ces propos-là, qui sont des propos très rares. C'était des petites choses que, comme ça, dans ma petite tête, je sentais. Je me disais quand même, il y a des trucs qui ne vont pas avec le sport. Je voyais bien que l'utilisation idéologique que fait le capitalisme dans sa forme actuelle, par exemple l'idée de la domination, cette idée de la compétition, d'être le plus fort, c'est bien ça une idéologie qui a permis de construire la société comme on nous l'impose aujourd'hui. Donc, merci de vos propos, parce que vraiment, ça nous aide. Enfin, moi, ça va m'aider beaucoup. J'ai regardé les Jeux Olympiques, évidemment. Il faut. Je ne vous ai pas interrompu. J'ai regardé les Jeux Olympiques. C'était effectivement. Il ne faut pas nier que le spectacle du sport est séduisant. C'est un spectacle extrême, de mieux en mieux filmé,
bien sûr,
avec des moyens extraordinaires, les moyens mis en œuvre au niveau des moyens télévisuels ont été là aussi uniques. C'est aussi un aspect sur lequel il faudrait peut-être réfléchir.
Bien sûr.
Donc, merci de vos propos, parce que je crois que je vais m'abonner à votre avis, parce que vraiment, ça nous aide à réfléchir, et c'est une pensée, à mon avis, qui n'est évidemment pas retransmise par les médias, je le découvre ce soir, et pourtant je suis assez attentif à ce qui se dit. Voilà.
Maintenant, je peux répondre à la question de monsieur. Attends, je vais répondre à la question de monsieur là, sur la question de, encore une fois. Pourquoi les enfants vont au sport ? Pourquoi les enfants choisissent de faire du sport ? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si les médias passent leur temps à retransmettre les Jeux Olympiques, c'est pour des raisons précises. C'est parce qu'effectivement, toutes les fédérations sportives, après les Jeux Olympiques, ont une recrudescence d'abonnements, de licenciés, et notamment dans les disciplines qui ont brillé aux Jeux Olympiques. Donc, effectivement, le lien est clair et net. C'est que la propagande totalitaire du régime chinois vis-à-vis, qui a utilisé... Je ne mélange pas tout. C'est simplement que vous faites une fausse dissociation entre un régime chinois qui a passé 7 ans à organiser des Jeux Olympiques qui sont effectivement l'événement phare du mouvement sportif dans son ensemble, de l'institution sportive. C'est-à-dire que toutes les fédérations sportives dans lesquelles vont s'inscrire les petits-enfants de Corbini jusqu'au Venezuela, toutes les institutions sportives sont rattachées au Comité international olympique. Ce qui veut dire que les liens sont évidents dans le sens où pour que des enfants puissent se licencier dans un club de sport, encore faut-il qu'ils aient envie de faire du sport et encore faut-il que cette envie puisse naître chez eux. Or, les médias sont éminemment importants là-dessus. Et quand les Jeux Olympiques, quand des Jeux Olympiques se passent et sont retransmis à haute dose pendant 15 jours, sont retransmis de manière effectivement abrutissante, il est évident que les photos de Usain Bolt ou de Laure Manoudou vont avoir un impact considérable sur le choix. Attendez.
Moi, je vais prendre la parole alors. Attendez, moi, je prends la parole.
Le jeu olympique, il a raison, complètement. On pèse, on bousille. Moi, ça me fait vendre des télévisions. Je suis vendeur de télévisions. C'est un commerce exceptionnel, des paraboles, des trucs et tout. Hein? On peut pas dire que c'est autre chose, c'est du commerce. Hein? Voilà. Mais nos enfants, moi j'ai des filles qui sont à l'école aussi, voilà. Et comment on fait avec ce bordel de photographie et de vision et de gens qui vous montrent beaucoup d'argent, les grosses Mercedes à la UDES et tout. C'est pas possible pour nos enfants, ils sont perdus, ok? Voilà. Et nos enfants, on doit leur faire du sport. Et parce que ils ont besoin d'être bien dans leur tête. Le sport, il faut qu'ils fassent du sport pour l'équilibre, un équilibre naturel.
Alors très bien. Alors je vais répondre.
Et merci Fabien d'être là. Et excuse-moi de t'avoir un peu agressé tout à l'heure.
Il n'y a pas de problème. Je crois effectivement ce que j'entends de ce que me dit Philippe et de ce que vous dites aussi, Laurent. La question c'est de savoir effectivement est-ce que le sport c'est mauvais pour mes enfants. Bon, si vous voulez que je réponde à la question, je vais répondre très simplement. Le sport c'est mauvais pour vos enfants. Voilà, c'est très clair. Je vais vous le dire Et je vais vous dire pourquoi. Le sport c'est mauvais pour vos enfants tout simplement parce que le sport aujourd'hui conduit à des conduites addictives de doper, de droguer. C'est clair et net. À Corbigny comme ailleurs.
Attendez, laissez.
Alors. Je continue donc. On va donc définir les termes de manière très très précise. Premièrement, j'entends par sport une activité institutionnelle organisée, encadrée par des clubs avec des règlements, des compétitions, des championnats, des records et une bureaucratie derrière pour faire fonctionner le tout. D'accord ? Je ne confonds pas l'activité sportive qui est effectivement une institution historique qui est née avec le capitalisme industriel de l'Angleterre, donc le sport moderne, et je ne le confonds pas avec l'activité physique dans son ensemble. L'activité physique étant le propre de tout individu, chaque individu peut bouger, sauter, courir, lancer, faire ce qu'il veut, c'est pas mon problème aujourd'hui. De la même manière que vous pouvez effectivement coucher avec votre femme ou avec un homme ou avec deux femmes ou avec 36 hommes, c'est une activité physique qui met en jeu le physique de manière dominante, nous sommes d'accord. Mais le jour où vous commencerez à calculer votre temps d'éjaculation, à mesurer, je continue. Le jour où vous calculerez le temps que votre femme met pour avoir un orgasme, le jour où, etc., et vous aurez une bureaucratie derrière, et vous aurez vous ferez du sport en chambre de la même manière que vous ferez de l'athlétisme. Donc, j'entends par là le fait que le sport est une institution dominante qui a tendance à phagocyter toute forme d'activité physique et qui, effectivement, donc on peut parler de sportivisation de l'activité physique, et toute activité physique aujourd'hui est captée par l'institution dominante qui est l'institution sportive. Elle est dominante, comme je le disais en finale en citant Marx, elle est dominante parce qu'elle a la puissance matérielle d'être dominante, et cette puissance matérielle c'est quoi ? C'est le fric. Il se trouve que le sport, aujourd'hui, est une machine à cash. C'est une multinationale qui fait du pognon et qui se sert du pognon de manière transnationale, encore une fois, transclassière, où effectivement, c'est même en général les prolétaires qui subventionnent et qui financent les plus riches, puisqu'on sait très bien que les clubs de football, notamment, appartiennent à des manias du pétrole et autres grands magouilleurs. Alors, attends. Quel est le lien avec Corbini? Puisque, a priori, ce qui compte, c'est de parler de Corbini ce soir. Je vais donc faire le lien avec Corbini. L'AS Football Corbini. L'AS Football Corbini n'est qu'un maillon dans la grande chaîne du sport international. Dans le sens où, le jour où vous aurez un petit Zidane à Corbini, le jour où vous aurez effectivement un grand joueur qui viendra de Corbini, votre club de sport deviendra de la même manière une cible pour tous ceux qui voudront faire du pognon sur Corbini. Donc, il se trouve que le système sportif est parfaitement organisé en pyramide, c'est Coubertin qui l'a mis en place. Il y a la grande base et il y a la pointe. Pour qu'il y ait une pointe, il faut une grande base. Cette grande base, c'est toutes les petites fédérations de football, de Trifouilly-les-Oies ou de Corbini, qui effectivement donnent la masse de population nécessaire à faire émerger un Zidane. Pour un Zidane, vous avez des millions de gamins qui se retrouvent cassés, meurtris, dégommés, qui ont rêvé pendant des années d'être le Zidane du coin et qui finissent aux pâquerettes avec des ligaments croisés bousillés, avec des problèmes d'entorse, avec des coups de boule en plein match, avec la violence pendant les matchs du coin Corbini contre Trifouilly-les-Oies, qui réunit effectivement autour du stade tous les parents qui rêvent que leurs petits-enfants deviennent les Zidane du coin, qui investissent tout un tas de sentiments à leur égard et qui finissent effectivement en fin de match pendant les fameuses troisième mi-temps par se taper copieusement sur la gueule comme d'habitude. Et on sait très bien qu'effectivement la plus grande majorité des violences aujourd'hui dans le football ne viennent pas des grands matchs de foot. Pourquoi ? Parce que les grands matchs de foot peuvent se permettre d'organiser des cordons de CRS autour des stades, peuvent se permettre d'organiser des places de matchs beaucoup plus chers, etc. Mais ça vient d'où ? Ça vient des petits clubs où effectivement chaque week-end, vous avez dans la Gazette des communes, vous avez dans le petit journal du coin, machin contre un tel qui vient de lui casser la gueule, et un petit rassemblement de bidules qui ont fini par se taper sur le parking, etc. etc. Pourquoi ? Parce que l'alcool est dedans, et parce qu'effectivement les ambiances de stade et les effets de pression entre deux équipes qui sont monomaniaques, qui sont constituées que d'hommes, avec effectivement un machisme et un virilisme ambiant considérable, et bien ça se termine par quoi ? Par des espèces de coqs qui se tapent sur la gueule. Et c'est normal, voilà.
Bon, ben, attends. Bon, moi, j'ai la parole.
Fabien.
D'accord.
Dans le même temps, et dans la même volonté.
Monsieur Philippe, allez, laissez-moi la parole.
Où ça ne paye pas, où il n'y a pas d'argent à l'arrivée, c'est ignoré complètement.
Oui, c'est vrai.
D'accord ?
Bah oui, le capitalisme se fout complètement de savoir les sports qui ne rapportent pas d'argent. Il faut une poule aux œufs d'or,
France,
c'est tout.
On a des grands champions qui sont ignorés et qui sont champions du monde. Ah bon. Voilà, complètement.
Bon,
voilà.
Alors, à moi. Bon. Bon, moi, je suis comme monsieur. Je suis ravie que vous soyez là. Je vous remercie.
Moi ?
Non. Alors, vous aussi. Bravo pour l'humour. Non, non. Je suis ravie. Alors, messieurs, dames. Attends. Alors, d'autre part, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai boycotté les Jeux Olympiques depuis cette année, puis ce toujours, et je boycotte le mondial et je boycotte tout le sport en général. Je suis ravie et à cause de ça, je vis toute seule. Bon, alors d'autre part. Voilà. Alors, d'autre part. Attendez, voilà, excusez-moi. D'autre part, je voudrais. Moi, j'ai retenu un mot qui m'a vraiment. Sur lequel je vais rebondir, c'est le projet de civilisation. Je veux dire, c'est un mot qui a été dit dans le compte-rendu et moi, je suis absolument d'accord. Je veux dire, quand on voit politiquement ce qu'on nous présente, ben, on essaye tous un peu d'aller un peu partout et puis en se faisant bien manipuler. Alors moi, j'ai la même chose au niveau culturel. C'est exactement le même problème que pour le sport. Et aussi, je voudrais vous dire, je suis allée une année, il y a très longtemps, ça n'a rien à voir avec le sport, mais c'est la façon de penser. J'étais à une exposition universelle à Séville, je crois que c'est en 92, voilà. Et j'ai appris ce jour-là que la ville de Séville était endettée depuis 1936, c'est-à-dire que pour que le pouvoir puisse mettre en place 50 ans d'architecture, la ville de Séville était endettée pendant 64 ans. Alors moi, je trouve ça absolument incroyable. Et puis attendez, j'ai encore un truc.
Même pas tout raconter parce que c'est pas tout raconter.
Et alors, quant à Charlie Hebdo, je vous conseille d'acheter Ciné Hebdo parce que Charlie Hebdo, c'est des collaborateurs. Ce n'est plus un journal satirique, c'est un collaborateur de classe. Et donc, il faut. Je vous appelle à acheter Ciné Hebdo. C'est beaucoup plus marrant et c'est plus subversif. Voilà.
Il y a des questions là sur le. Il y a du sport ce soir. Hein.
Moi, je voudrais juste rebondir sur un mot, c'est que vous avez dit que le sport c'était aussi une façon de se relier, et on n'a plus de religion, mais on a le sport.
Oui, mais le sport, le problème, c'est qu'il unit en tant que séparé. C'est-à-dire qu'il unit les gens effectivement dans une phase mimétique. Les gens sont tous contents, parfait. Alors là, tout le monde est content, la France a gagné. Alors tout le monde se tient. Attends. Est-ce que vous avez suivi le Mondial 98 ?
Non,
vous ne l'avez pas suivi. Mais personne ne peut contester le fait que quand on a effectivement les Champs-Élysées avec peuplé de monde pour effectivement accueillir Zinedine Zidane et d'autres, il y a effectivement un problème de société qui se pose. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout le monde, aujourd'hui dans cette salle et ailleurs, sont contaminés par la peste footballistique. Je suis simplement en train de dire que c'est un mouvement d'ensemble qui est effectivement dangereux, qui se déploie de manière transnationale, universelle, et qui effectivement pose un problème, en tout cas, à la fois sociopolitique et puis de santé publique. Je veux dire, quand vous avez des millions de supporters aux quatre coins du monde, mais en France aussi, je veux dire, quand à l'issue de la Coupe du Monde de football 98, vous avez des morts, vous avez des blessés après la victoire de la Coupe de la France, des gens qui se retrouvent ivres-morts en train de se taper sur la gueule par effet de masse et effet de pression, c'est créé par le football. Ça n'est pas par hasard que ça se passe. Vous n'aurez jamais ça à la sortie de l'opéra, franchement. D'accord ? Bon, alors, voilà. Donc, oui, mais attendez, ce que dit ce monsieur, voilà, ce que dit ce monsieur est vachement intéressant. Ce que dit ce monsieur est très intéressant. Je peux finir. Pourquoi à l'opéra? Pourquoi?
Ce discours-là, faut le faire à Paris, faut le faire dans les grandes villes, faut le faire même à Nevers, peut-être, ou à Cône, ou à je ne sais où, mais pas chez nous. Chez nous, sur un stade, on se fout jamais sur la gueule.
Mais enfin,
y a le tennis. Quand on joue au tennis, parce qu'il n'y a pas que le foot. Il y a le tennis, il y a le rugby, il y a tout ça. Il y a la natation. Je sais pas, mais à Corbigny, s'il y a la natation. Mais j'ai joué au rugby à l'USON pendant il y a quelques années. Pendant des années, on a jamais
des eu années,
aucun problème.
Des années de trop.
L'USON, Nevers. Bordel de merde, mon grand-père était président de l'USON Nevers. On n'a jamais entendu des conneries pareilles, là, que c'est de la faute de Pékin si le sport marche pas. Bordel de merde, faut arrêter. C'est pas la faute de Pékin si le sport...
Je mets...
Très bien, à vous demander, qu'est-ce que vous pensez de Domenech? Est-ce que Domenech est parfait, quoi.
Avec Philippe Dessau, on a fait de la moto. On a fait de la moto, on a roulé, on est à Brassy, il y a un club à Brassy qui est de moto et tout, c'est quand même du sport, c'est quand même pas de la merde, hein, et c'est pas les Japonais qui nous emmerdent. Donc faut arrêter de dire que les Japonais nous ont fait chier, nous ont empêchés de faire quoi que ce soit sur le sport. Pas ici. Vous faites vos thèses, vous faites tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, mais dans les grandes villes, dans les machins, vous allez vendre vos bouquins, vous allez vendre ceci, cela, mais pas chez nous, bordel de merde.
Attendez. C'est...
Malheureusement, toujours relativiser avec l'argent.
Attendez.
Pas bien,
attends,
Philippe.
Attends. Il y a... Attendez, je vous passe tout de suite. Il y a du sport. Il y a du sport. Attends, Laurent. Il y a simplement. Moi, je suis pas au fait. Étant maintenant peu pratiquant, mais regardant quand même, m'intéressant un petit peu à la vie locale. Il y a moins d'un an, il y a eu une grève de tous les arbitres au niveau du, comment ça s'appelle, au niveau du district. Il y a eu une grève, il y a eu des pages entières dans le journal du centre, parce qu'il y a eu, ces derniers temps. Alors, Laurent, il a certainement raison quand il parle de son père et de son grand-père. Moi, ayant fait du sport aussi quand j'étais jeune, je me suis jamais bagarré. J'ai fait du basket à Corbigny. Mais il se trouve que dernièrement, simplement pour les gens du coin, puisque tu parles des gens du coin, dernièrement, il y a quand même eu des problèmes assez graves dans des clubs qui sont des petits clubs du coin, quoi, où il y a eu des bagarres. Et peut-être que, bon, ça n'existait peut-être pas, il y avait d'autres valeurs à une certaine époque, j'en sais rien.
Mais voilà, on pourrait effectivement. Pardon.
Voilà. Moi, je me demande pourquoi on s'enlise dans un débat où il y a une incompréhension totale entre ce que vous dites et ce que d'autres personnes disent. On n'élargit pas assez le débat. Je trouve que c'est trop, peut-être pas politisé, mais trop mondialisé d'un côté et trop local sur un autre. Bon, il y a les deux aspects du foot, il y a les deux aspects du sport qu'il faudrait aborder, je crois. Tout le monde a raison. Et en plus, je crois qu'on rattache beaucoup le sport au foot. Or, en fait, il y a beaucoup d'argent dans tout le sport, surtout dans le foot. Mais il y a aussi d'autres sports qui rapportent beaucoup moins d'argent, où les gens prennent plaisir à jouer sans argent. Et surtout dans ces petites communes locales où on ne pense pas forcément faire du fric en faisant jouer les gamins une fois par semaine au foot ou n'importe où. C'est vraiment...
On parle de la même chose.
Élargir le débat. Alors que je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi aussi, j'ai boycotté tous les Jeux Olympiques. Je n'ai rien regardé. Je suis tout à fait d'accord. Mais je trouve que là, il faut élargir le débat. Il y a une partie nationale mondiale et il y a une partie... il y a plein de sports qui attirent un peu moins d'argent que le foot.
Bon, alors, on va donc...
Réponse, Fabien.
On va donc les prendre un par un. Moi, je pose la question. Je pose la question. Pourquoi l'AS Football de Corbigny... Pourquoi l'AS Football de Corbigny ne fait pas d'équipe mixte?
Il n'y a pas assez de femmes.
Pourquoi il n'existe aucun sport? Pourquoi il n'existe aucun sport du plus petit au plus haut de l'échelle qui ne sont pas mixtes, qui n'est mixte? Mixte, je veux dire, mixte, qui joue ensemble, c'est-à-dire que vous avez des filles et des garçons qui tapent dans la balle en même temps.
Est-ce que tu as la réponse?
Je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner la réponse parce que le projet de civilisation du sport, c'est un projet de civilisation machiste. Parce que les femmes sont censées se transformer en hommes et parce que les hommes sont censés devenir de gros pédés sur le terrain, à s'embrasser après, à se faire des grosses papouilles. Et c'est généralement les plus gros virils qui sont les plus gros homosexuels refoulés.
Si, ça marche. Donc, moi, je prétends qu'on peut faire ce choix, quand même, en étant conscient de ce qui se passe, parce que j'étais aussi à Asnières, au volet, donc au niveau national. Effectivement, rien que ce qui était marqué dans les vestiaires me faisait gerber, ça, je suis bien d'accord. Mais dès qu'on arrive dans un petit club, on a pu faire des choses complètement humaines.
Non, mais alors, attendez. C'est-à-dire que c'est comme, de manière très générale, quand vous avez des espèces d'îlots. De gens qui tout d'un coup au sein d'une société extrêmement totalitaire, capitaliste, il y a des îlots qui tentent de vivre mieux, qui tentent de faire quelque chose de mieux. Je ne dis pas que dans le sport ce type d'îlot là n'existe pas. Je dis simplement que si vous vouliez organiser des matchs mixtes en dehors du niveau départemental, régional, national, international, vous vous confronteriez à quoi? Vous vous comporteriez à quoi? Effectivement, à un règlement qui est mis en place par un CIO, le Comité international olympique, qui régit toutes les fédérations, c'est-à-dire par un ensemble de gérontocrates qui décident de l'avenir du monde au niveau du sport, qui décident effectivement à votre place des règles et qui décident que les filles et les garçons ne joueront pas ensemble. Et si ils décident... Eh ben ouais, moi je vois bien trois filles au milieu des autres dans une équipe de
France.
Bien sûr.
Alors que là, j'ai regardé une match de filles, elles sont super bonnes.
Bah bien sûr, donc c'est pour ça qu'elles ont leur place. C'est pour ça qu'elles ont leur place.
S'il vous plaît, oui, mais moi je trouve ça justement très intéressant parce que... Je pense que votre discours que vous avez eu ce soir doit être fait à Paris, avec aussi un public face à vous qui font partie de ces grosses institutions qui ont besoin de se faire taper et de se faire prendre des coups de bâton. Parce que je pense que tout ce que vous dites ce soir, on était d'accord avec ça. Maintenant, je pense que c'était plutôt un problème de public vis-à-vis de l'intervenant et de votre discours vis-à-vis du public et, bien sûr, au public aussi de s'adapter à l'intervenant.
Donc, voilà.
Non, mais si c'est ça...
Non, moi, je pense que c'est une question d'aveuglement.
Le discours, vos convictions que vous avez, je les comprends, vos convictions, mais les convictions, si vous voulez les faire passer au niveau local... Je pense que c'est justement dans ce discours-là que, monsieur, vous avez eu, en disant que oui, les initiatives locales existent et on peut faire changer les choses à travers, justement, des choses qui partent de la base à monter vers le haut. Et c'est pas avec le discours que vous avez du haut à taper, parce que ici c'est pas entendu. Donc je pense que c'est dommage, parce que je pense qu'il y a tout le monde qui vous a compris. Il y a tout le monde aussi qui voit des jolies initiatives et tout le monde croit aussi dans le sport local et son petite association.
Alors je continue.
Bon. Attends, Philippe. Bon. Ouais.
Attends.
Je veux bien accueillir chez moi 15 jours gratuitement et lui faire découvrir la région. Gratuitement, sportivement, sympathiquement, sans souci. Voilà. Et j'espère après que les discours sont différents, parce que là, tout ce que j'ai envie, c'est de te mettre un gros pain sur la gueule.
Non, mais attendez, il y a pas de quoi rire, hein, franchement. Hein. Non, il y a pas de quoi rire. Moi, je suis menacé physiquement par un type qui veut mettre un pain sur la gueule et vous rigolez. Moi, je suis désolé. Est-ce que je t'ai menacé physiquement? Je t'ai menacé physiquement en parole.
Maintenant, je t'invite chez moi, une semaine, deux semaines, trois semaines, le temps que tu voudras, gratuitement. Et tu découvres la région gratuitement, avec le sport gratuitement. et tu nous fais un discours après. Parce que là, c'est 0-0-0.
Là-bas, il y a...
Oui, dans les sports de compétition, on finit par se disputer, se battre, etc. Mais pour moi, le sport, ce n'est pas que le sport de compétition. C'est aussi le sport de plein air. J'en cite, par exemple, le kayak, la descente de rivière, le ski, la montagne. Tout un tas de choses qui aident les individus à se développer physiquement, intellectuellement, en vivant bien avec les autres, mais sans esprit de compétition.
Ben voilà,
moi, j'ai passé toute ma vie à faire ces choses-là auprès d'enfants, d'ados et d'adultes même. Eh bien, ça aide les gens à s'épanouir. Hein, c'est aussi une pratique du sport qui me paraît très importante.
Il me semble avoir en début...
Bravo, voilà, voilà. Ça c'est dit. Parce que le sport, c'est du sport, il y a combien de sports en tout. C'est pas le foot, et l'argent, le sport, c'est des gens qui aiment se faire plaisir.
Il a posé une question, et laisse-moi répondre.
Ouais. Merci, monsieur. Je me sentais un peu isolé.
Merci, monsieur.
J'ai l'impression que j'étais un peu fou à un moment.
Non, mais laisse-moi répondre.
Merde.
Mais t'énerve quoi, t'es là.
C'est bien, là. Psychologie, il y a moyen de discuter. Vous ne me changerez jamais. Je suis congé.
Le problème, vous voyez, c'est que. Le problème, c'est que dès qu'effectivement on se met à parler de sport, l'ambiance du sport revient au galop. Et l'ambiance du sport revient au galop et justement elle rend compte d'une chose, c'est qu'il n'y en a pas plusieurs, c'est qu'il n'y en a bien qu'un. Il y en a bien un seul qui empêche catégoriquement de faire venir, advenir un projet de civilisation où on s'écouterait, où on prendrait le temps de se parler, où on prendrait le temps non pas d'éructer et de se hurler à 2 centimètres du visage, mais où on pourrait effectivement prendre le temps d'écouter son interlocuteur, d'écouter également celui qui a été invité par politesse, d'écouter également ce qu'il a dit pour éviter de lui faire répéter 10 fois la même chose. Eh ben, ça serait bien. Et je crois pas, je ne crois pas, sauf en ayant une fausse conscience et une hypocrisie monumentale, je ne crois pas que ce soit ce qui se soit passé ce soir. Tout simplement pourquoi? Parce que je reviens sur quelque chose. Tout à l'heure, j'ai bien précisé que mon intervention concernait le sport en tant qu'institution, bureaucratie, organisation de compétition au niveau universel, du plus bas au plus haut de l'échelle, et qu'elle se différenciait effectivement de l'activité physique qui pouvait effectivement relever d'autres choses, tout en spécifiant que toute activité physique aujourd'hui, qu'elle soit de plein air, de pleine nature ou qu'elle soit de salle, toute activité physique aujourd'hui, le kayak, comme la varap, comme je ne sais quoi, comme la pêche, comme, eh bien, toutes ces activités, non, sont simplement phagocytées par les institutions sportives qui, effectivement, remettent à qui mieux, et si possible, des fédérations qui organisent des compétitions. Il y a des compétitions d'escalade, il y a des compétitions de kayak, il y a des compétitions de canoë, il y a des compétitions de pétanque, il y a des compétitions de pêche à la ligne, il y a des compétitions de buveurs de bière, et il y a des compétitions... Et... Et donc, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, pour revenir à cette idée que je ne serai pas à la hauteur de Corbigny.
Écoute.
Oui, mais...
Alors, que je...
Mais on l'a invité.
On l'a invité. Attends, il y a eu un placard comme ça dans le journal du sens, comme quoi il allait avoir des propos... qu'il allait nous rentrer dans le lard. Il est capable.
Même agressif pour nous.
Mais qu'on nous embête pas sur les histoires de...
Pour... Pas de
Pour revenir sur la question des pratiques locales. Si tant est que ce soit possible et que vous ayez envie d'écouter, sinon je peux arrêter, hein, c'est pas un problème. Pour revenir sur la question des pratiques locales, je prenais l'exemple tout à l'heure de, effectivement, est-ce qu'il y a des équipes mixtes ? On me dit, oui, bien, c'est très bien, le volley tente de le faire, c'est une bonne chose. Pour autant, et pour revenir encore une fois sur ma définition du sport, dans quelle mesure un club de volley peut-il aujourd'hui subsister s'il n'organise pas de compétition qui soit à la fois locale, mais qui puisse aussi déboucher sur du régional, enfin du départemental, du régional, du national et de l'universel, ou du mondial. Eh bien, effectivement, vous le savez très bien, aucun club ne peut se constituer aujourd'hui, en tout cas, sauf de manière effectivement très très marginale. C'est de la même manière qu'il existe des îlots d'anarchistes décroissants, de la même manière qu'il existe des groupuscules d'altermondialistes qui vivent dans l'Ardèche. Bon, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui décideraient aujourd'hui de fonder un club de volley-ball et qui se jouerait sans compétition, eh bien, ils ne pourront pas l'appeler volley-ball. Ils auront les fédérations qui leur diront « mais ce n'est pas du volley-ball ». Tout simplement parce que les fédérations savent très bien que le volley-ball, c'est une activité précise, où effectivement, on joue de manière précise. On joue à 6 contre 6, dans des univers très, très codifiés, avec des filets à tant de mètres, avec des règles, avec des lignes, avec des arbitres, avec une organisation. Si vous voulez jouer à 3 contre 3 au volley-ball, ou avec des grands-mères, des grands-pères, des petits, des grands, tout, si vous voulez finalement rendre le volley-ball, j'allais dire, public, c'est-à-dire ouvert à tous, et où tout le monde puisse se rencontrer, eh bien, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas dans le sport. Vous vous rendrez compte que vous inventerez autre chose, qui ne s'appellera pas le volley-ball, parce que l'activité volley-ball, elle a un copyright. L'activité volley-ball, elle a un copyright.
Ouais, et...
Écoutez, la définition juridique du sport qui concerne donc tous les clubs de petit niveau comme de grand niveau, c'est une définition juridique appliquée dans tous les tribunaux français. Cette définition juridique précise que le sport est une activité à dominante physique qui, par l'intermédiaire de compétitions, confronte des individus pour pouvoir faire émerger le meilleur record, la meilleure performance ou la... Cette définition est la définition juridique du sport. Vous pourrez toujours crier à U et à Dia, ça ne changera rien à l'affaire. Si vous créez un club qui ne crée pas de compétition, vous ne ferez pas du sport. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est le lien quotidien qui existe entre...
Bon, et on peut dire un mot quand même.
Écoutez, je suis désolé, si vous n'arrivez pas à faire sortir cette personne qui m'insulte, qui me traite de couillon, de pédé de mes couilles depuis tout à l'heure, je ne continue pas. Et voilà, c'est tout.
Bon, il y a une incompréhension totale, de toute façon, je pense, entre les gens. Alors, on ne peut pas en discuter, quoi. Monsieur Boyko, pas poser les questions.
Bon, on va lever le camp, hein, on va arrêter parce que bon, c'est pas possible, ça n'arrive pas. Bon, attends, mais il y a, est-ce que c'est. Bon, c'est... Non, Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais c'est... C'est... Non. Bon, on va mettre fin au... Non, mais attends, mais c'est... Non. Bon, allez. Bon, bah merci, il y avait du sport, c'était du sport.